europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Si la population mondiale continue de croître, elle vieillit et l'Europe est en première ligne. Aujourd'hui en Europe, les gens vivent plus longtemps et ont moins d'enfants. La hausse régulière de l'espérance de vie se traduit par un vieillissement de la population et la démographie déclinante va entraîner dès 2021 une diminution de la population sur le vieux continent qui portera plus que jamais son nom. Avec quelles conséquences sur le plan économique, social, migratoire et géostratégique? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
Vous êtes démographe, directeur de recherche émérite à l'INED. L'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques. Votre dernier livre, Se sentir mal dans une France qui va bien, est paru aux éditions de l'Aube il n'y a pas très très longtemps. Ça parlait, je ne dis pas de bêtises, beaucoup des gilets jaunes.
Il y avait une petite partie, puisque c'était une des manifestations du se sentir mal.
Marc-Olivier Palisse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des études de la Fondation Terra Nova. C'est quoi la Fondation Terra Nova?
C'est un cercle de réflexion qui a pour objet de faire des propositions de réforme de politique publique.
Et vous avez publié avec l'Institut du Montaigne une étude dont on va parler dans cette émission. Nicolas Menet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, expert de la Société du vieillissement, directeur général du cluster d'innovation. Silver Valley, c'est quoi un cluster? En français, ça, on dit quoi un cluster?
C'est un regroupement d'entreprises, en fait, et notre travail, c'est d'accompagner tous les porteurs d'innovation sur la longévité pour qu'ils puissent croître et effectivement s'exporter en Europe et dans le monde entier.
Et vous avez dirigé la rédaction du grand livre de la longévité aux éditions Erol. Bonjour Mathias Lersch.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes chercheur démographe à l'Institut Max Planck de Rostock, un institut très spécialisé sur la recherche démographique. Merci d'être en ligne de Rostock. Rostock, c'est sur les bords de la Baltique, c'est ça, hein?
Tout à fait, exactement, sur les belles côtes de la Baltique.
Donc on est au très grand nord de l'Allemagne.
Exactement.
Alors, Nicolas Menet, en Europe, on est vu à partir de quel âge?
Alors, effectivement, ça dépend des pays, mais la plupart, effectivement, des calculs sont faits à partir de 60 ans, puisque on peut considérer... en Europe, il y a à peu près 19% de la population. L'Europe des 28, il y a 19% de la population qui a plus de 60 ans. Donc on considère 60 ans, mais c'est vraiment une indication pour pouvoir commencer à faire des catégorisations, mais c'est pas à 60 ans qu'on est vieux, de toute façon.
Marc-Olivier Spadis, est-ce que tous les Européens sont vieux au même âge ou est-ce qu'il y a des inégalités géographiques? Est-on vieux plus jeune, c'est-à-dire plutôt à l'Est ou au Sud de l'Europe?
Alors c'est vrai que c'est pas les mêmes conditions de vie en fonction du contexte sanitaire, des équipements médico-sociaux, etc. Et ce qui nous est apparu dans notre étude, c'est qu'en Europe de l'Est, il y a quand même un problème particulier de vieillissement de la population qui est quand même très très différent. Et donc il y a des fractures à l'intérieur de l'Europe sur cette question du vieillissement.
Hervé Lebras, je serais tenté de dire, c'est mathématique tout ça. Hein. En Europe, l'espérance de vie augmente, même si elle a tendance à stagner depuis quelques années.
Oui.
Vous êtes d'accord, hein,
voilà.
Et les Européens font moins d'enfants, donc conséquence logique, la population vieillit.
Oui, mais le fait de faire moins d'enfants, c'est un vieillissement à long terme. Il faut attendre qu'ils arrivent dans la population active. Actuellement, dans un pays comme la France, vers 22 ans en moyenne. Par contre, le fait de vivre plus ou moins longtemps, donc l'augmentation de l'espérance de vie ou sa stagnation, ça entraîne un vieillissement immédiat. Mais le problème, Marc-Olivier Padis a parlé des pays de l'Est, l'un des problèmes importants des pays de l'Est, en fait, le vieillissement est aussi créé par l'émigration, c'est-à-dire il y a une partie importante de la population et surtout la population au fond la plus éduquée et la plus jeune qui quitte les pays d'Europe de l'Est pour aller soit vers l'Ouest, par exemple en Allemagne, soit au Canada ou de l'autre côté de l'Atlantique.
C'est évidemment une partie importante de l'émission, effectivement, de ces déséquilibres qui est en train de naître en Europe ou de se confirmer. L'espérance de vie, d'une manière générale, en France, quel est-il aujourd'hui?
On
a un petit point de repère.
En France, on est les champions pour les femmes qui atteignent 85 ans et demi. Pour les hommes, on est à 79 ans et demi. On est un peu moins bon, mais enfin, on est dans le peloton de tête, et là aussi la coupure est assez grande entre l'Est et l'Ouest, mais il faut faire attention parce que À l'ouest, on est maintenant entré dans une période de quasi-stagnation. Depuis 10 ans, l'espérance de vie, par exemple, des femmes en France n'a augmenté que d'une demi-année, alors qu'à l'est, il y a une période de rattrapage. L'espérance de vie avait stagné dans les années 60, 70, 80.
Pendant la période communiste.
Pendant la période communiste, ça avait commencé en Union soviétique. Il faut savoir que dans la Russie actuelle, l'espérance de vie des hommes, c'est 65 ans. C'est la même qu'en France dans les années 1930. Pour vous donner une idée du retard. Et donc, les pays de l'Est étaient en retard.
On peut même dire qu'en Russie, l'espérance de vie a baissé pendant, au cours de ces 20 dernières années. Elle remonte un petit peu.
Elle remonte maintenant, mais elle a surtout stagné. C'est-à-dire qu'ils ont eu une progression rapide jusque dans les années 60. Puis est arrivée la période Brejnev, la stagnation. Et au moment, au contraire, où elle se mettait à progresser rapidement dans les années 70 à l'Ouest, elle n'a pas bougé à l'Est.
Alors, un petit mot. Quel est le nombre d'enfants que chaque femme doit mettre au monde pour assurer le renouvellement de la population, qu'on ait ce chiffre en tête?
Oui, on dit toujours qu'il faut, ça dépend de la mortalité infantile, hein. Il faut actuellement en France, il faudrait 2,07 enfants par femme. Alors bien sûr, c'est difficile de faire 0,7 enfants.
C'est plus dur.
Plus dur.
Le Bras, malgré l'immigration extra-européenne, évidemment on va y venir, l'ONU estime qu'en Europe, la population aura diminué de 5% en 2050, c'est-à-dire demain, et qu'en 2021, la population de l'Europe va diminuer.
Alors, faut faire attention, parce que le mot Europe a différents sens. Si on prend les projections de l'ONU pour l'Union européenne, à mon souvenir, il n'y a pas de diminution, il y a stagnation. C'est parce que les pays comme l'ancienne URSS vont voir, au contraire, auront une diminution un petit peu, pas très importante, mais une diminution de leur population. Ce qui compte pour l'Europe, c'est qu'il y aura une diminution de la population active. Et ça nous ramène au vieillissement, c'est-à-dire parce qu'il y aura une augmentation de la population âgée.
Marc-Olivier Badis, il y a trois cas de figure hein, sur le plan démographique en Europe. Il y a l'Europe du Nord et de l'Ouest, l'Europe du Sud et les pays d'Europe centrale. En quelques mots.
Oui, en fait, si on observe effectivement trois Europes démographiques d'une certaine façon et pas simplement une Europe, il y a des chiffres moyens mais qui cachent des disparités, il y a des pays qui ont une démographie assez forte, type la France, l'Irlande, et qui en plus attirent de la population, surtout l'Irlande, et donc qui connaissent un développement assez important. Il y a des gens qui arrivent et la population croît naturellement. Il y a des pays qui ont une démographie faible, type l'Allemagne, où la croissance naturelle est faible, voire négative, mais il y a des migrants qui arrivent et donc ça compense en partie. Et puis il y a des pays qui cumulent les inconvénients, c'est-à-dire, et ça c'est justement les pays de l'Est, ou la plupart d'entre eux, c'est-à-dire qui ont une démographie faible, et en plus les jeunes qui partent, comme le disait Hervé Lebras. Alors ces pays-là connaissent du coup une baisse nette de la population, mais dans des proportions, en fait, c'est ce qu'on a voulu faire un peu dans notre travail, c'était montrer ça, de montrer l'ampleur du mouvement, parce que un pays comme la Bulgarie a perdu pratiquement un quart de sa population depuis une vingtaine d'années. Ce qui est vraiment considérable en temps de paix, c'est des chiffres normalement qu'on n'observe pas.
Surtout en temps de paix, surtout.
C'est ça. Parce que bon, il y a des mouvements de population pendant les périodes de guerre, etc. Mais donc, vous avez des pays comme la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, en fait, qui se vident de leur population, ou certaines régions, en tout cas, surtout en dehors des villes, se vident littéralement de leur population. Et ça a des effets, des impacts politiques vraiment très importants.
Alors, Mathias Lersch, le thème de la démographie, le vieillissement de la population, la faible natalité en Allemagne, c'est un problème récurrent qui revient régulièrement donc dans la bouche de tous les personnels politiques.
Oui, tout à fait. Oui, l'Allemagne, je pense, a été un des pays qui a connu une faible fécondité le plus tôt dans les années 70 et depuis est continuellement en dessous du taux de remplacement des générations. En effet, et c'est aussi un pays qui va connaître des enjeux de vieillissement très importants. On peut juste citer deux chiffres. Si les baby-boomers aujourd'hui représentent 24 millions en Allemagne, donc c'est des gens qui sont nés entre 1950 et 69, ils vont bientôt partir à la retraite, et les jeunes cohortes qui vont rentrer dans le marché du travail, qui vont devoir les remplacer, ne sont que 15 millions. Donc il reste un trou de 9 millions, qui est quand même considérable.
Alors, Nicolas Manet, Marc, Mathias Large vient de l'expliquer, c'est le grand départ à la retraite des baby-boomers qui ont fait évidemment la croissance démographique de l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est évidemment un phénomène majeur.
Oui, et surtout en fait, ces générations, alors on retrouve un petit peu les mêmes configurations sociologiques en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. C'est vraiment un bloc en fait sociologique homogène. Et en fait, ces personnes, les baby-boomers, nous challengent complètement sur le rapport au vieillissement. Pourquoi ? Parce que c'est une génération qui s'est battue toute sa vie pour son autonomie, sa liberté, son individualité, et qui aujourd'hui, évidemment, n'accepte absolument pas que l'institution prenne le pas sur leur mode de vie. Et donc, en cas de dépendance, ce sont des personnes qui accepteront pas, effectivement, ce qui est proposé aujourd'hui, globalement, dans les différents types de maisons de retraite classiques. Donc c'est beaucoup d'opportunités européennes pour l'innovation.
Alors ça veut dire que c'est un marché qui se crée, qui se développe, en tout cas en Europe occidentale.
En tout cas c'est un marché, ce sont des challenges parce que il y a beaucoup de demandes. Et bon, pour la France, on a quand même 94% des Français qui souhaitent rester au domicile. Et il y a 74% des personnes de plus de 60 ans qui sont propriétaires de leur logement. Ça c'est une spécificité française. Les personnes sont propriétaires de leur logement et veulent y rester. Donc le challenge c'est effectivement de créer des infrastructures qui vont permettre aux baby-boomers notamment de pouvoir vivre comme ils l'entendent jusqu'à la fin de leur vie, mais aussi de leur permettre d'être accompagnés dans le soutien, d'être soutenus à leur domicile.
Hervé Lebras, Courrier International, qui est un partenaire historique de l'émission, a sorti la semaine dernière un numéro où on voit intitulé « La fin des bébés ». C'est vrai que c'est plus très tendance de faire des bébés comme ça l'était, par exemple, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lié notamment à l'individualisation de la société et des modes de vie, entre autres choses.
Oui, ceci dit, il y a des grosses différences. La France est encore à 1,87, pour être tout à fait exact. Ça peut baisser, mais un pays comme le Portugal ou la Grèce sont à 1,30. Et le champion dans le monde actuellement vers le bas, c'est l'année dernière, la République de Corée. 0,98 enfants par femme. Et d'ailleurs, c'est dans la partie, au fond, c'est l'est du continent asiatique qui est le plus concerné par la baisse de fécondité. Nous, au fond, on a une certaine habitude. L'Europe est autour de 1,50 enfants par femme depuis maintenant presque une trentaine d'années, un peu après la fin du baby boom. Donc, pense que un pays par exemple comme l'Allemagne est en train de voir sa natalité remonter légèrement, mais ils sont passés d'à peu près 1,30 à 1,50. Donc, on va continuer, à mon avis, en Europe de cette manière-là. Et on parlait de notre interlocuteur à Rostock, citait le cas de l'Allemagne, du déséquilibre en Allemagne. Mais il faut voir que les Allemands ont répondu, au fond, à ce déséquilibre démographique successivement dans leur histoire par des vagues migratoires. Il faut voir que dans les années 90, après la chute du mur et la fin du bloc soviétique, en migration nette, 4 500 000 Allemands sont arrivés des pays de l'Est, de Russie, du Kazakhstan, de Roumanie, un petit peu de Tchécoslovaquie, de Hongrie. Et au fond, ce que font les Allemands actuellement, ce qu'ils ont fait dans les 3 années précédentes, est dans la ligne, au fond, de ce qu'ils ont. Là, ils l'ont fait avec des réfugiés, si vous voulez. Mais ils ont une certaine habitude de compenser leur vieillissement démographique par de la migration.
Alors, Mathias Lerche, puisqu'on parle de l'Allemagne, vous êtes le premier concerné, le plus compétent, probablement. La faible natalité en Allemagne est compensée par une immigration très régulière. On peut y avoir, évidemment, en mémoire, en 2015, l'arrivée d'un million de migrants, de réfugiés que l'Allemagne a su tant bien que mal intégrer.
Oui, tout à fait. Donc premièrement, je voudrais quand même tempérer les propos parce que l'Allemagne n'a pas forcément une fécondité très faible. Elle est petit pile poil dans la moyenne de l'Union européenne avec 1,5 et des poussières. Donc en effet, il y a une augmentation par rapport aux années 1990, mais cette augmentation, elle a été très fortement engendrée par le rattrapage de la fécondité à l'Est. Donc il y a eu une forte crise de la fécondité dans les années 90. Cette crise, en fait, a maintenant été surmontée. Et aussi par des effets structurels dans la population. On a beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans les âges pics de la reproduction. production comparé à il y a 20 ans. Donc c'est pas sûr que le taux de fécondité va encore augmenter. Pour le moment, il est en train de fluctuer. Mais en effet, l'Allemagne en fait est un pays d'immigration depuis plusieurs décennies, comme beaucoup de pays de l'Union européenne, avec en moyenne autour de 100-150 000 immigrants par année, mais bien sûr avec des pics, comme c'était le cas en 2015, entre 2015 et 2017, avec plus d'un million. Mais il faut quand même penser que c'est des pics très localisés dans le temps et leur effet démographique reste relativement minime. Ce qu'il faudrait, sur le long terme, pour stabiliser la population allemande, il faudrait doubler le solde migratoire, donc la différence entre les entrants et les sortis, afin que autour de 200 000 personnes arrivent en plus chaque année. Ça veut dire donc le doublement du solde actuel.
Marc-Olivier Padi, qu'on revienne à ce que j'avais commencé un peu à expliquer, on va tenter d'expliquer, en tout cas, essayer d'avoir quelques réponses. La fin des bébés, c'est aussi une évolution, je reprends le titre de Courrier International, c'est aussi une évolution profonde de nos modes de vie dans la société. On est de plus en plus individuel, on est de moins en moins familial, on aspire à se réaliser individuellement, on est plus égoïste. Il n'y a pas forcément, dans certains pays, les aides publiques pour élever un enfant, sous forme de crèche, de garderie, d'aménagement du temps de travail. Bref, élever un enfant, ça a un coût très très important dans le monde aujourd'hui, et on préfère parfois peut-être avoir des loisirs plutôt qu'avoir des enfants ou des voilà. Je reprends une formule de Courrier International. Partout dans le monde, les conditions économiques, sociales et écologiques agissent telles un contraceptif insidieux.
On pourrait poser la question pour l'écologie, effectivement, qui pourrait, dans une version très pessimiste, très collapsologique, encourager des gens à se dire « bon, on arrête tout ». Moi, je ne pense pas qu'on soit dans une société de plus en plus égoïste. Quand on interroge, en fait, les ménages et qu'on leur demande, en fait, pour vous, votre représentation de la vie familiale, c'est quoi ? Les gens ont quand même l'image, en fait, d'un couple avec deux enfants, en gros. Et l'écart entre cette image idéale de la famille, les deux enfants, et puis la réalité, eh ben, c'est les conditions de logement, les politiques sociales, l'accès à l'emploi, etc. Donc ça fait très longtemps qu'on sait, par exemple, que la comparaison entre la France et l'Allemagne, le fait que les femmes aient plus d'enfants en France qu'en Allemagne, est lié paradoxalement au fait que les femmes françaises ont un meilleur accès au marché du travail, et donc elles arrivent à combiner leurs aspirations multiples, le fait d'être une femme active, mais aussi une mère de famille, beaucoup plus facilement qu'en Allemagne, où c'était beaucoup moins vu. Bref, je pense que en fait, il y a aussi simplement des mutations culturelles, mais enfin les conditions matérielles jouent quand même, c'est-à-dire la facilité d'accès au travail, le fait d'être stabilisé. Les gens ont des enfants à partir du moment où ils ont le sentiment d'avoir une situation, d'avoir un logement, d'avoir des perspectives d'avenir. Et c'est pour ça que les jeunes qui n'ont pas de perspective d'avenir quittent leur pays, et donc c'est ça aussi qui crée des déséquilibres démographiques à l'échelle européenne.
Est-ce qu'on peut trouver, Nicolas Menet, un avantage au vieillissement de la population?
Oui, c'est un petit peu, j'allais intervenir dans ce sens-là en disant que c'est quand même une énorme opportunité, ce vieillissement de la population, pour plusieurs raisons. J'ai expliqué la partie immobilière, où le patrimoine appartient plutôt aux personnes âgées, même si les retraités sont plutôt riches en patrimoine qu'en trésorerie. Aussi, les besoins de ces personnes baby-boomers dont on a parlé tout à l'heure, qui challengent constamment l'innovation, donc ce sont des gens qui veulent rester au domicile, qui sont capables d'avoir des conduites de prévention. Ça, c'est quelque chose de vraiment d'important, et qui sont aussi digitalisés. Et ça, c'est vraiment pour le vieillissement. Le digital est une véritable planche de salut. C'est un peu fort, mais en tout cas, c'est un véritable avantage pour bien vieillir.
En quoi le numérique va aider la population à bien vieillir, si je vous ai bien compris? Un petit mot, un exemple.
Alors, ça, j'en parle dans mon livre, Le Grand Lien de la Longévité. C'est un chapitre entier qui s'appelle Pourquoi le numérique est une planche de salut pour le bien vieillir. Parce que le numérique a au moins trois avantages. avantages. Le premier point, c'est un lien social qui est compensé par le numérique. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié à l'information, donc l'information de prévention, l'information sur la retraite, la culture également, qui peut être... Alors, c'est des pis-aller. Je dis pas que c'est mieux d'aller sur Internet que d'aller visiter un musée. N'empêche que quand on est à mobilité réduite ou qu'on a moins envie de sortir ou que la mobilité est compliquée, bah finalement, le numérique est une véritable opportunité.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescales.
Avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Sacha Michel.
Bonjour Daniel.
Courrier International titrait récemment la une « La fin des bébés » et pour illustrer un dossier très complet sur la natalité qui baisse dans bien des pays en Europe, eh bien c'est ce qui arrive en Espagne particulièrement et plus précisément dans une bourgade du nord-ouest du pays qui n'a pas connu une seule naissance en 2 ans.
Et oui, le journal El Mundo plante le décor d'entrée. À Fermoselle, il y a une aire de jeu dont le toboggan orange et les balançoires n'ont presque jamais servi. Et à côté, un énorme fronton de pelote basque où les enfants pourraient jouer à la balle ou encore sauter à la corde. Mais problème des enfants, il n'y en a pas dans cette commune du nord-ouest du pays. Et oui, le quotidien espagnol nous emmène dans la capitale de cette Espagne qui se vide. Car Fermoselle détient un triste record, celui de la plus grande municipalité d'Espagne, comme vous le disiez Daniel, parmi celles qui n'ont pas connu une seule naissance ces 2 dernières années. Après la guerre, 4300 personnes y vivaient. Aujourd'hui, la population atteint à peine 1200 habitants, dont seulement 50 mineurs. Encore un chiffre, en 1927, l'école accueillait 800 enfants, cette année 34. C'est le symptôme d'une Espagne où le solde naturel est négatif, c'est-à-dire où les décès surpassent les naissances. Selon Alejandro Macaron Larumbe, directeur de la Fondation Renaissance Démographique, la population espagnole sera même 2 fois moindre en 2100 qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Alors en 2018, les femmes espagnoles ont mis au monde en moyenne 1,26 enfants. Alors Sacha, comment cela s'explique-t-il ?
Eh bien, le problème, c'est pas tant la baisse de la fécondité, selon El Mundo. C'est plutôt que les hommes et les femmes en âge d'être parents sont de moins en moins nombreux. C'est mécanique et la tendance va être difficile à inverser. Deuxième point, à en croire Alejandro Larumbe, les causes ne sont pas économiques, mais sociales. Il y a des pays dont l'économie se porte à merveille et ils ont le même problème, assure-t-il. Pour preuve, en Espagne, les 15 villes au plus fort taux de chômage ont le même nombre d'enfants par femme que les 15 villes au chômage le moins important. La grande différence, c'est qu'il s'est produit un changement important de valeur, insistent les démographes. On a évolué vers une société où avoir des enfants a cessé d'être important, où fonder un foyer est devenu quelque chose de secondaire. Mais comment donc remédier à la situation ? Comment enrayer l'inexorable vieillissement de la population ? D'abord, Larumbe préconise le recours à l'immigration et en parallèle, estime-t-il, la prise de conscience doit être totale au sommet de l'État. L'objectif, permettre aux jeunes d'avoir autant d'enfants qu'ils le souhaitent et de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Quand un phénomène démographique s'installe, on ne cherche pas de solution, prévient-il, et il le déplore. Et 50 ans après, on ne peut plus inverser un processus qui s'est amplifié pendant des décennies.
Merci Sacha Michel, Courrier International, l'hebdo, courrierinternational.com, le site. Alors on va revenir évidemment sur l'émigration qui est une façon de résorber ce déclin démographique. Hervé Lebras, quand même un petit mot sur les problèmes que ça pose en termes de retraite, de financement de ces retraites et puis de l'âge du départ. C'est évidemment un débat qui secoue la France et qui agite la France depuis bien des semaines. Mais la logique, c'est qu'on va travailler plus longtemps. Ça paraît inexorable.
Oui, ceci dit, il y a une marge et il faut regarder très près les calculs qui sont faits. Si on prend le cas de la France, mais on va rentrer dans les débats franco-français, mais
si vous
prenez le dernier rapport du corps, que vous le lisez attentivement, pour différentes raisons, il n'y aura pas vraiment de problème en France dans les années à venir. Vous allez être surpris, mais le rapport est très clair là-dessus. Le seul problème sera le désengagement de l'État de ce qu'il fait habituellement, puisque, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est pour dire qu'il faut se méfier de cette question. D'autre part, il y a une marge, effectivement, les Français, par exemple, sont ceux qui partent le plus tôt de l'activité de tous les pays de l'Union européenne. Donc, ils peuvent partir un peu plus tard, comme le font même nettement plus tard. Les Suédois partent 5 ans plus tard, si vous voulez.
64 ans et demi, j'ai lu. Oui, les Danois, France... 65 ans et 2 mois.
Oui, oui. Alors, faut les régimes sont assez différents, mais c'est pour dire que on s'inquiète beaucoup, mais je crois qu'il faut le tempérer. Mais ce qui est vrai, c'est que au fond, on a plus de difficultés finalement à changer les modes de vie, à maîtriser des paramètres démographiques. Donc, bien sûr, il va falloir faire face à ce problème, et c'est très différent selon les pays. C'est aussi des problèmes d'égalité entre les générations. Il ne faut pas oublier qu'en France actuellement, quand on regarde le taux de pauvreté à 50%, il y a seulement 2,9% des personnes de plus de 60 ans qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, et il y a 12,4% des jeunes de 18 à 30 ans qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Le vrai problème de la France, c'est sidérant, si vous voulez, on est en train de se focaliser sur cette question de retraite, alors que la vraie question, y compris d'ailleurs pour le chômage, c'est la question de la jeunesse. Et...
avec les risques de conflits intergénérationnels, mais on en dira un mot un peu plus tard. Marc-Olivier Padis, on parle de migration, d'immigration, d'émigration. Le seul continent qui va voir sa population croître de manière importante, c'est l'Afrique, l'Afrique aux portes de l'Europe, ce qui veut dire que l'Europe va devoir faire face à une forte pression migratoire, et peut-être qu'il va lui falloir clarifier sa politique migratoire, justement.
Bon, alors, moi, je ne suis pas du tout adepte de cette idée, parce que, d'abord, le développement démographique de l'Afrique va profiter à l'Afrique. Et ça va profiter à la croissance. Il y a déjà pas mal de pays africains qui ont eu une belle croissance. Et donc, la plupart des migrations africaines sont intra-africaines, en fait, d'un pays d'Afrique à l'autre. Et ce qu'on a montré dans notre rapport sur les trois Europes migratoires, si vous voulez, c'est que le départ... il y a plus de départs de pays européens vers l'Europe, d'Européens de l'Est vers l'Ouest, que de pays subsahariens vers l'Ouest, et même en pourcentage. Donc, il y a plus de pression, si vous voulez, qui vient de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Hongrie, etc., que des pays subsahariens. Donc, on se focalise un peu à tort sur cette histoire africaine. Il n'y a pas des systèmes de vases communicants comme ça. Mais, en revanche, ce qui est vrai, c'est que du point de vue des représentations politiques, il y a une pression qui est très très forte, et on le voit bien, y compris dans les pays qui perdent de la population jeune, il y a cette espèce d'inquiétude, l'impression de plus avoir d'avenir à proposer à sa jeunesse. Ça crée des crispations politiques très fortes.
Oui, on peut constater que dans les pays comme la Hongrie, la Pologne, le vrai problème, c'est pas l'immigration, c'est l'émigration. Même si les personnels politiques mettent en évidence le risque d'avoir de perdre leur identité à travers une forte immigration, c'est pas le cas. Le vrai problème, c'est les Roumains, les Polonais, les Hongrois qui quittent leur pays pour aller travailler en Allemagne, ou ailleurs.
C'est toujours ce paradoxe, si vous voulez. Vous regardez tout ça, on se souvient qu'au moment de la crise des migrants, le pic d'arrivée des réfugiés, les pays européens avaient essayé de trouver un système de distribution en disant, bon, on va se répartir les arrivées pour que la Grèce et l'Italie ne supportent pas toute la charge. Et les Hongrois ont dit, ah non, nous, jamais, on n'en veut pas, etc. Et en Hongrie, il n'y a pas d'immigrés. C'est-à-dire, même les seuls immigrés, c'est des Hongrois qui viennent, en réalité, des régions avoisinantes. Donc, et en fait, ils sont traumatisés par l'idée de devoir arriver, effectivement, des Syriens, des Soudanais, etc. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le fait qu'ils sont traumatisés, en fait, pas simplement par l'idée de la diversité culturelle, de voir des gens d'autres horizons arriver chez eux, mais aussi parce qu'ils ont vu leurs jeunes partir. Et là, il y a un autre problème, parce qu'on parlait des inégalités intergénérationnelles, les retraites, etc. Mais il y a un point qu'on souligne, qui est le fait que quand un pays a investi dans la formation de sa jeunesse, et que le jeune diplômé s'en va, c'est une perte nette pour ce pays. Et c'est un transfert vers les pays les plus riches, en fait, de l'Europe. C'est-à-dire l'Allemagne, moins la France, mais la Grande-Bretagne et les autres pays, les Pays-Bas, etc. En fait, ils accueillent de la main-d'œuvre qualifiée pour lesquelles ils n'ont pas fait des dépenses d'enseignement. Et à l'inverse, alors c'est vrai aussi des Portugais, des Espagnols, qui ont formé leurs jeunes, ils ont dépensé de l'argent, et ils voient les jeunes partir ailleurs, utiliser leur énergie, leur inventivité, etc. Et là, ça crée des déséquilibres équilibre entre les pays européens. Et les pays de l'Est disent oui, vous nous envoyez des fonds structurels, mais vous nous prenez nos jeunes qui sont formés. Et ça, c'est une inégalité, en fait, que au niveau européen, il faut qu'on apprenne à négocier.
On va donner quelques chiffres. La population de la Lettonie est passée de 2,6 millions à 1,9 million de 1995 à aujourd'hui. C'est considérable.
Oui, d'autant plus que, en fait, pour contraster, on peut dire, par exemple, prenez la Hongrie, ils étaient au début des années 80, ils étaient à 10,7 millions, un peu plus. Maintenant, ils sont passés à 9,8, donc ils étaient au-dessus de 10 millions, ils sont passés un peu en dessous. Donc, c'est une perte de 8% de la population. Mais pendant la même durée, la France gagnait plus de 20% de population. Donc, il faut voir le différentiel que ça crée. Donc, c'est des pays où il y a plus ce dynamisme. Et puis, surtout, les gens qui voient partir, les jeunes diplômés, ils ont l'impression d'être abandonnés de tout le monde. Et donc, c'est pour ça que la Pologne et la Hongrie ont mis en place des politiques natalistes extrêmement fortes, avec des primes pour les jeunes, des crèches gratuites, etc., parce qu'ils essayent de les garder. Le problème, c'est que...
Avec succès ou pas ?
Ben, le différentiel de ça, salaire est tellement important qu'un jeune Hongrois qui va tenter sa chance à Londres, maintenant ça va être plus compliqué, mais enfin c'est ce qui s'est passé quand même pendant 10-15 ans, pouvait gagner 10 fois plus que s'il restait à Budapest. Et donc, même si vous lui donnez une prime de 10% sur son salaire hongrois, ça suffit pas complètement à compenser.
Alors, le fameux plombier polonais qui a tellement perturbé les Français, c'est évidemment un faux problème.
Bah, c'est un faux problème pour les Français, c'est un vrai problème pour les Polonais.
Un faux problème pour les Français, j'entendais bien.
C'est ça. D'abord, parce que c'est pas tellement la France qui a accueilli beaucoup de jeunes diplômés. Hein. C'est plutôt l'Allemagne, les pays du Nord, la Grande-Bretagne. Il va y avoir des effets du Brexit et de la restriction là qui font sur l'immigration, qui fait que les choses vont se redistribuer autrement. Est-ce que les Polonais vont retourner en Pologne? Est-ce qu'ils vont choisir d'autres destinations? On ne sait pas très bien. Donc en réalité, le plombier polonais, c'est un problème pour les Polonais qui ne trouvent plus de plombier.
Et pour les Roumains qui n'ont plus de médecins.
Puisque ils ont des plombiers ukrainiens, les Polonais, il faut le savoir.
Parce qu'il y a
1,5 million d'Ukrainiens qui sont temporairement en Pologne.
Mais c'est vrai que si vous regardez dans nos hôpitaux, et c'est vrai aussi des hôpitaux britanniques et allemands, qui fait les gardes de nuit, etc., ce sont des médecins roumains, bulgares, hongrois. Et comme on sait, des études de médecine, c'est long, c'est cher, et c'est les autres pays qui ont payé pour
financer.
Mathias Lersch, on est conscient de cette forme de pillage, hein, quand même, des connaissances, des capacités, du dynamisme dont bénéficie l'Allemagne. On est conscient un petit peu ou pas vraiment en Allemagne?
Je pense que bien sûr qu'on en est conscient, parce que ces inégalités qu'on retrouve entre les pays, où on a parlé de la Lituanie, ou de l'Estonie. Donc les inégalités qu'on trouve entre pays européens, on les trouve aussi au sein des pays européens. En Allemagne, par exemple, là je suis très bien situé, dans le Mecklembourg-Vorpommern, tout au nord, à la côte baltique, on a exactement les mêmes problèmes qu'en Lituanie ou comme en Albanie, où il y a un exode des cerveaux, où la population vieillit de manière très très rapide. Cet exode de cerveaux se fait justement au profit des grands centres de l'Allemagne. Donc on a exactement ce qu'on retrouve aussi en Galice ou dans le Pays Basque, on le retrouve même en Allemagne. Et là aussi, on est devant des grands problèmes, comme assurer les infrastructures dans des régions périphériques ou qui vieillissent à une rapidité galopante, ainsi que la fuite des cerveaux, bien sûr.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescale.
Carrefour de l'Europe, l'Europe vieillit. Nous sommes avec Hervé Lebras, démographe, directeur de recherche émérite à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, avec Nicolas Meney, il est sociologue, c'est un expert de la société du vieillissement et directeur du cluster national Silver Valley, et avec Mathias Lersch en ligne de Rostock, il est chercheur démographe à l'Institut Max Planck de Rostock. Marc-Olivier Padis, je voudrais qu'on revienne sur les conséquences, enfin une des conséquences de ces migrations intra-européennes, ce sont évidemment les plus dynamiques, les plus jeunes, les plus entreprenants, les plus brillants qui tentent l'aventure en quittant leur pays. C'est évidemment, on a dit qu'il y a plus de plombiers polonais en Pologne, il y a plus de médecins roumains en Roumanie. C'est aussi un affaiblissement de la classe moyenne qui, évidemment, s'ils étaient restés dans leur pays, évidemment, ils auraient été la base de la classe moyenne de leur pays, et évidemment avec ce que ça implique en termes de structure, de fondation démocratique de ces pays.
Tout à fait. Alors, c'est plus hypothétique, c'est difficile à démontrer, mais on sent intuitivement qu'il y a un rapport, c'est-à-dire que ces jeunes professionnels avec des perspectives d'avenir, qui sont diplômés, qui peuvent créer de la richesse dans leur pays, ce sont aussi des classes moyennes stabilisatrices et modérées d'un point de vue politique, voire progressistes. Or, si ces jeunes-là partent, finalement, il reste un électorat plus âgé, plus conservateur, plus rural, qui n'est pas attiré par les voyages, les déplacements, l'Europe de l'Ouest, les valeurs de l'Ouest.
Et donc, l'ouverture au monde.
C'est ça, d'une manière générale. Et donc, on peut se demander s'il n'y a pas un rapport entre le durcissement politique qu'on observe dans des pays comme la Hongrie, la Pologne, et ces mouvements migratoires. Et pareil, d'ailleurs, dans l'Allemagne de l'Est, on sait très bien que le mouvement AfD...
L'alternative pour l'Allemagne, le mouvement, le parti d'extrême droite.
Le parti d'extrême droite et fait ses meilleurs scores dans les anciens Länder de l'Est, où on observe la même dynamique de départ des jeunes diplômés. Et donc, on peut se demander si ces mouvements de population vont pas créer des durcissements politiques, hein, une radicalisation conservatrice, voire réactionnaire, voire d'extrême droite, dans certaines régions. Et donc, ce qui est aussi un impact assez préoccupant de ces mouvements.
Nicolas Menet, est-ce que finalement il y aura suffisamment de jeunes pour s'occuper des vieux dans la silver economy que vous nous proposez et que vous imaginez, sur lequel vous réfléchissez?
C'est vrai que le décor planté est quand même assez, quand même pas très positif, je trouve. Mais en fait, ce qui est quand même très positif, c'est que toutes ces opportunités où des pays où des personnes âgées sont finalement seules, avec des infrastructures qui sont pas forcément adaptées, des jeunes qui sont pas forcément là pour le faire, c'est autant d'opportunités, encore une fois, d'innovation. Alors, peut-être que ça va créer de nouvelles inégalités, mais aujourd'hui, vous avez des start-up françaises, des start-up allemandes, espagnoles, qui sont vraiment les pays qui produisent le plus de start-up sur la longévité, qui vont pouvoir s'exporter dans ces pays-là. Et je peux citer un exemple avec une start-up qui a beaucoup de succès, qui s'est exportée au Canada, en Espagne, qui s'appelle Familéo. C'est quelque chose de très simple. En fait, vous avez une application, vous pouvez envoyer des photos, des messages sur l'application, et en fait, tout ça est automatiquement mis en page, et ça fait un journal papier qui permet de créer du lien avec des personnes âgées. Donc, Familéo, dans tout ce que vous avez dit, dans ces pays finalement où il y a plus qui sont finalement des déserts de personnes âgées esselées, enfin c'est un petit peu comme ça que vous l'avez présenté, et démographiquement
c'est un peu
la réalité. Mais en fait, pour moi, c'est ce que je vois en tant que directeur général du cluster d'innovation européen Silver Valley, c'est que c'est autant d'opportunités pour nos startups qui viennent de toute l'Europe. Il faut le rappeler, on a des startups belges, des startups espagnoles, des startups italiennes. On n'a pas beaucoup parlé de l'Italie, mais c'est un pays qui est quand même un des pays les plus vieux en France, avec effectivement des structures familiales qui sont encore bien en place, une solidarité familiale, mais il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'opportunités. Et c'est vrai que moi, je retourne un petit peu le problème démographique en disant, mais tout ça, c'est autant d'opportunités d'innovation sur notre territoire, sans forcément aller sur le continent américain ou en Asie. On a des belles opportunités en Europe à ce niveau-là.
Hervé Lebras, vous partagez l'optimisme, Nicolas Menet, le vieillissement de la population, c'est une opportunité pour l'innovation?
Je serais plutôt de l'avis de Marc-Olivier Padis. C'est une opportunité dans la mesure où c'est un peu une prise de pouvoir des personnes âgées. Donc là, effectivement, elles ont de l'argent. Il reste la pauvreté. Mais je vais vous donner un chiffre. En 1970, il y avait 2 500 000 Français et Françaises qui étaient au minimum vieillesse. L'année dernière, il y en avait 580 000, pour deux fois plus de personnes âgées. Donc le taux de personnes au minimum vieillesse a été divisé par 10 en France. C'est pour vous dire les progrès. Est-ce que ça va continuer? Je voudrais poursuivre sur cette histoire des pays de l'Est, parce que si vous prenez la France l'année dernière, on a dit 1,87 en taux de fécondité, et on a le chiffre de l'INSEE, et le solde migratoire de France, c'est 46 000 personnes. Avec ces deux chiffres, à terme, la population française serait amenée a diminué, lentement, mais a diminué. Donc on n'est pas dans une situation aussi merveilleuse qu'on l'a décrit. Et d'autre part, le phénomène d'émigration ne touche pas simplement l'Europe de l'Est. Il y a 2 ans, selon l'INSEE, 230 000 Français, enfin nés en France, ont quitté la France et 100 000 seulement sont revenus. Donc on a un déficit de Français de 130 000. Et ce déficit est sans doute un déficit peut-être pas forcément de d'ingénieurs de très haut niveau ou de financiers, mais très vraisemblablement de personnes assez hautement diplômées, et parmi elles, ou de personnes qui ont une vraie compétence, par exemple des personnes de la seconde génération, qui ont d'excellents diplômes de pâtissier, ou peut-être même d'ailleurs de plombier, et qui sont l'objet de discrimination en France, une fois qu'ils ont leur diplôme, et qui quittent la France pour l'Angleterre, pour le Canada, et ça fait une sélection négative dans cette, au fond, ce qui se passe au niveau de la seconde génération, est comparable à ce qu'on vient de décrire, qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est, et je pense que c'est vraiment un problème pour la France.
Que la manœuvre, vous lui dites, ajouter quelque chose.
Enfin, je pense qu'il faut quand même voir les opportunités économiques. Alors, bien sûr, là, moi, je parle du point de vue de la France, parce qu'on a quand même très implanté en France, mais des groupes comme Korian ou Maison de Famille, qui sont des groupes d'EHPAD aujourd'hui, vont effectivement très largement s'installer dans les pays de l'Est, en Allemagne, etc., en Italie. Et il y a des vraies opportunités.
Alors, ce sont des groupes qui construisent et qui gèrent des EHPAD,
des maisons de retraite. Des résidences pour les personnes âgées, il y a toute une diversité.
Et qui sont d'ailleurs extrêmement critiqués par leur gestion et le service qu'ils assurent, entre parenthèses. Oui, les scandales sont quand même assez grands. Mais je vous laisse poursuivre.
C'est un petit peu comme la SNCF. Hein. Il y a 96% des trains qui sont à l'heure. Il y a 4% qui sont en retard. On parle que des trains en retard. Donc c'est un petit peu la même chose pour Korian ou Maison de Famille. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une difficulté même en France. Hein. Il nous faut 93 000 emplois. 93 000 personnes pour le service à la personne au domicile. C'est la même chose dans les autres pays. Les pays que vous avez cités, c'est un énorme problème. Il y a très peu d'infrastructures qui sont prévues. Peut-être que justement, ce sont des emplois peu qualifiés pour des personnes de première génération
et
qui arrivent dans
ces... très mal payés.
Oui, mais ce sont potentiellement, vous parliez de guerre intergénérationnelle sur l'emploi, ce sont potentiellement encore une fois des opportunités. Et c'est vrai que là, avec ce qui s'est passé en France, je voudrais quand même rappeler que la France est un des pays les plus avancés au monde sur le vieillissement de la population, de par les différentes lois, la filière Silver Economy en 2013, la loi Grand Âge et Autonomie qui va voir le jour en 2020, il faut quand même savoir qu'on est très en avance et observé du monde entier sur ce sujet-là. Et clairement, aujourd'hui, on est en train de rendre plus attractifs les métiers du grand âge, et ça peut servir d'exemple à d'autres pays qui vont se retrouver totalement isolés sur ce sujet. Moi, vraiment, je bien sûr, le tableau est tout à fait réaliste, mais vraiment, il faut le voir sous la forme d'opportunités, alors d'opportunités économiques, mais aussi d'opportunités sociales et intergénérationnelles. Pourquoi ? Parce que dans une société qui va de plus en plus vite, avec des gens qui ont de moins en moins le temps, en fait, finalement, de comprendre un petit peu dans le monde dans lequel ils sont, l'importance des relations intergénérationnelles, de la transmission, de la place de la personne âgée dans la société a énormément d'importance. Ça, c'est ce dont je parle dans mon avant-dernier essai, construire la société de la longévité. Les rapports intergénérationnels sont absolument clés pour la cohésion sociale.
Marc-Olivier Panitz, on l'a dit, l'âge moyen des électeurs ne cesse d'augmenter. C'est pas sans conséquence, hein, parce que quand on est plus âgé, on est plus préoccupé par la sécurité. Quand on est jeune, on a une fibre écologique, environnementale plus grande. On est quand même beaucoup plus intéressé par l'emploi. Est-ce qu'on va vers des sociétés de plus en plus conservatrices ? Il y a un risque.
Il y a un risque que des clivages politiques soient vraiment plus marqués à travers l'âge. Hein. Comme le faisait remarquer Hervé Lebras, tout le monde est... Enfin, le débat franco-français, par exemple, est très focalisé sur la question des retraites, alors que c'est pas... ça fonctionne assez bien, même si là, il y a beaucoup d'inquiétudes, etc. Mais on ferait beaucoup mieux de s'inquiéter de la pauvreté, effectivement, des jeunes et des jeunes actifs, de leur formation, de l'investissement dans l'école, dans l'université, dans tout ce qui permet d'entrer dans la vie active. Et en fait, les politiques, ils sont quand même, sensibles au manque d'incitation lié au fait que les jeunes ne votent pas assez. D'ailleurs, ça se voit aussi dans les campagnes municipales. Comme les jeunes ne sont pas assez inscrits sur les listes électorales, ils ne participent pas assez, ils ont un moindre impact.
Et alors que les vieux votent.
Et les vieux votent. L'exemple le plus caricatural, c'est le Brexit. Hein, puisqu'en Angleterre, finalement, c'est les personnes âgées qui ont voté pour quitter l'Union européenne en privant d'avenir les jeunes Britanniques qui, eux, ont une aspiration très forte à participer à la vie européenne, à faire des études en Europe, etc. Et donc là, on voit vraiment cette injustice de ce déséquilibre, comme disent ce déséquilibre de participation électorale qui produit des effets politiques vraiment forts.
Et puis, dernière question, Marc-Olivier Padis, elle est pour vous. Peut-on rester un acteur de premier plan sur le plan mondial avec une population vieillissante?
Alors, en géostratégie, on dit que non. Ça, effectivement, c'est une ressource très importante, le dynamisme démographique. De ce point de vue-là, à nouveau, la France est plutôt en bonne situation. Mais c'est vrai que la moyenne européenne n'est pas très bonne, même si, à nouveau, elle cache la moyenne cache des situations locales contrastées.
Mais enfin, ce qu'il faut dire, c'est aussi que le monde vieillit. L'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, elles aussi vieillissent.
Hein. Oui, c'est-à-dire, il y a des pays qui vieillissent plus vite, comme Hervé Le Bras a pris l'exemple de la Corée, on sait aussi le Japon, mais même dans ces pays, ils ont un problème même de vie conjugale, c'est-à-dire que même les jeunes ne se mettent même pas en couple. Alors là, effectivement, c'est quand même le béaba. Là, avant d'avoir des enfants, il faut au moins vivre en couple, il faut au moins avoir des aventures amoureuses, et effectivement, eux, ils ont un problème même de relations entre les sexes.
Quoi. Oui, ce qui n'est pas trop le cas en Europe.
Dieu merci, ça va encore.
Ouf. Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Buffet avec Sacha Mitchell de Courrier International et la complicité de Nadia Benmafoud. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, le nouveau site RFI.fr à la rubrique podcast ou bien sûr l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. C'est l'innovation qui plaît justement à Nicolas Menet. Daniel Desesquelles, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Ça consacre. l'espace, on fait un test, on perd la face, personne ne répond au message qu'on envoie. Et c'est pour ça qu'on s'achète.
Géopolitique, le débat, Chantal Leroux.